15h42, c'est la Bourse Cash. Franklin Pichard nous rejoint, directeur général de Keeping Finance. Bonjour Franklin.
Bonjour Guillaume.
Vous voulez dire aujourd'hui leurs quatre vérités au marché, vous êtes sûr ?
Oui, je suis sûr.
Pour vous en bourse, et tel est votre message, pour vous en bourse, c'est le calme avant la tempête, car tempête il y aura. Tempête il y aura. Vous l'assumez ?
Je l'assume.
Ça se passe plutôt pas trop mal, Franklin, jusqu'ici. Le marché est conscient des risques autour des législatives françaises. Il avait corrigé la semaine dernière, cette semaine ça va un peu mieux. La semaine dernière, on était remonté. Il est conscient du côté des banques centrales qu'il n'y aura pas énormément de baisse de taux. Tout ça, c'est pricé par le marché. Bref, les risques sont dans les cours. Et vous dites, malgré tout, tempête il y aura. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que, effectivement, les marchés se sont un petit peu satisfaits trop vite et trop fort du fait qu'on considérait que les partis en présence, en l'occurrence le Rassemblement National, faisaient marche arrière. On a imaginé que lors de la réunion du MEDEF, ils avaient attendri les patrons d'entreprise et que, finalement, ça pouvait ne pas se passer si mal que ça. Alors, je pense qu'il y a une grande partie de vérité dans tout ce qui a été salué par le marché entre la semaine dernière et un tout petit peu ce début de semaine, mais on voit que ça ne tient pas. Je pense qu'effectivement, le marché, en dehors des intervenants domestiques, les marchés et les intervenants étrangers, sont beaucoup plus suspicieux, beaucoup plus inquiets. Et on le voit, vous l'évoquiez à l'instant, le spread entre la France et l'Allemagne. On voit également, quand on parle avec différents intervenants sur les LBO, sur des opérations, que les étrangers marquent le pas dans les médias, que les investissements sont au ralenti depuis la dissolution. Les investisseurs veulent voir avant de payer. Donc, quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible que à l'issue du deuxième tour, le 8 juillet, et peut-être un peu avant encore, les marchés sanctionnent une issue qui ne leur plairait pas.
D'autant que, alors, la marque France s'est construite en quelques années. Là, la France a pas mal attiré, effectivement, depuis quelques années. Une marque, c'est long à construire, très facile à détruire. On peut détruire une marque en très, très peu de temps. C'est ça qui se joue aussi autour de... Vous parliez des opérateurs de LBO, des fonds de LBO qui s'intéressent un peu moins à la France. Quand on discute avec des acteurs du private equity aussi, on entend que, manifestement, là, il y a un souci qui sera difficile à rattraper sur la France. Quel que soit, d'ailleurs, le résultat des législatives, il y a une forme de prise de conscience internationale que, sur l'économie, les Français sont prêts à avaler beaucoup de discours... quelle que soit la crédibilité de ces discours. Voilà. Et c'est donc un regard sur la France un peu désenchanté de la part de l'international. Ce sera compliqué à rattraper ça, quel que soit, Franklin, le résultat de ces élections.
Oui, je pense qu'il va y avoir une phase d'observation qui ne va pas être négligeable et que les étrangers attendront. Et puis, on va avoir un choc des calendriers. Hein. On va avoir les élections et puis, 8 jours après, tout le monde sera dans les starting blocks et dans l'attente des résultats du T2. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que ça aussi, et ça j'ai eu l'occasion de le remarquer en reprenant les graphiques sur 10 ans du CAC 40. Quand vous regardez le CAC 40 sur 10 ans, le T3 est historiquement plutôt un mois pas terrible sur le marché. En 10 ans, je crois qu'on a été 3 fois positif et plutôt cette fois légèrement, voire négatif. Donc, c'est vrai que c'est pas la meilleure période pour s'inscrire dans des élections, dans un choc politique qui va devoir affronter les marchés, les investisseurs. Et ça, je pense que du coup, on risque d'avoir une petite tempête quand même. Alors, longue, sûrement pas. Il y a des points techniques hein, sur les marchés. Hein. On parle d'un point bas à 7160. Donc, si on ne tient pas dans les ranges dans lesquels on est aujourd'hui, on avait décroché, on avait une zone d'accumulation autour de 7900 points. On a décroché, on est sorti par le bas. On est venu se poser une première fois, on s'est repris légèrement. mais beaucoup d'analystes techniques que j'écoute disent on a deux chocs possibles et dont l'un final qui peut être autour de 7160. Ça fait donc, c'est ce que j'appelle une tempête, une correction qui sera plus ou moins marquée et selon les titres.
Et vous méfiez vraiment de ce troisième trimestre qui historiquement n'est pas le meilleur mois boursier. Effectivement, c'est un mois relativement volatile, souvent troisième trimestre. On va voir ce que nous disent les entreprises vers leur publication. Et viendra pour le marché français ce facteur aggravant, à savoir non seulement alors les législatives, on verra quel en sera le résultat, mais en plus ensuite toute la phase de constitution du gouvernement, des intentions de politique économique, etc., auxquelles le marché pendant plusieurs semaines sera susceptible de réagir, bien sûr, et puis à l'automne le vote du budget. Bref, on entre dans une phase un peu complexe effectivement politiquement qui pourrait peser durablement. On va voir sur le marché français. Comment est-ce qu'on fait du coup quand on est investisseur? Vous avez pas mal de clients qui Clean Finance. Qu'est-ce que vous leur dites? Quelle stratégie adopter aujourd'hui?
C'est ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire au lendemain des élections. C'est-à-dire, on voit que les investisseurs, que ce soit les particuliers et ceux qui peuvent le faire, ont fait un maximum de cash. Parfois, j'entends même des chiffres, j'entends des gérants qui disent ne conserver que 5% sur la France dans l'immédiat. Alors, ça me semble excessif. Je pense que tout redémarrage est imprévisible et qu'il ne faut pas être complètement avoir les deux pieds sur le quai, il faut garder un pied dans le train. Donc
d'autant juste les programmes économiques, pas tous, mais certains d'entre eux sont peu à peu revus. Je dis pas qu'ils sont bien, mais en tout cas du point de vue des marchés, il n'y a pas matière aujourd'hui, du point de vue de ces programmes-là qui sont peut-être dans les sondages un peu plus favoris que les autres, du point de vue des marchés, pas de nature à paniquer. Ça ne veut pas dire que le marché achète, mais ça veut dire que le marché, en tout cas jusqu'ici, ne voit pas raison de prendre feu, quoi, quelque part.
Voilà. Non, il n'y a pas de raison. On est toujours déconnecté des fondamentaux. Hein. On le voit, un jour on monte fortement, le lendemain on baisse fortement. On voit bien que ce ne sont pas des investisseurs finaux, des particuliers ou des gérants de fonds qui font la pluie et le beau temps sur les marchés. On le sait, il y a plus de 96-97% qui sont faits par des automates et par des gestions actives. Donc on est vraiment... On est vraiment dans une situation où il faut faire très attention de ce décrochage entre les fondamentaux, comme vous le dites, et la volonté de certains opérateurs d'user et d'abuser la situation pour créer de la volatilité sur les marchés.
Vous achetez quoi? Plutôt les États-Unis que l'Europe, ou plutôt l'Europe que la France? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, typiquement, dans l'environnement actuel, on avait refait du cash, hein, c'est ce que j'avais eu l'occasion de dire, on avait refait entre 25 et 30% de cash, et puis on renforce la part américaine. Là aussi, on voit que les marchés sont très très volatiles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, revenir sur des titres qui restent avec des fondamentaux et des perspectives intéressantes, des titres comme Berkshire Hathaway, dont on peut faire confiance toujours à Warren Buffett, des titres comme Microsoft, Amazon, toujours les mêmes, mais ceux qui n'en avaient pas, qui sont arrivés récemment, ou ceux qui avaient pris peur la semaine dernière quand ils se sont dit ça y est, c'est fini, eh bien oui, on revient sur ces titres-là, parce que aujourd'hui il faut avoir des valeurs américaines.
Ce soir, Micron publie, sera prêt à la clôture. Vous aimez bien Micron?
Oui, on aime bien. On aime bien parce qu'on considère que par rapport à Nvidia, Micron Technologies est un incontournable dans le secteur.
Il nous appelle, vous avez entendu la cloche? Il nous appelle là depuis la tour Euronext. C'est la séance en direct, priorité au direct depuis la salle de contrôle du CAC. Étienne Braque est avec nous. Rebonjour Étienne. Cet après-midi, comment le CAC 40 se porte?
Bonjour à tous. Depuis 15h, il y a un léger mieux, mais vous avez quand même une glissade assez impressionnante depuis ce matin 10h, puisque le CAC 40, peu de temps après l'ouverture, gagnait 0,5%, et puis il a perdu plus de 1,3% à 15h. Alors depuis, il tente de se reprendre. Désormais, c'est une baisse de 0,9%, mais il est toujours sous les 7600 points, ce CAC 40, 7593 points, toujours bloqué entre ces 7500, 7700 points. Des volumes d'échange aujourd'hui qui se calment un petit peu après la baisse impressionnante de Airbus hier. 1,4 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. À noter les taux aux États-Unis qui remontent, le dollar qui est recherché, avec des commentaires d'une gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, qui était très très prudente sur les baisses de taux et qui reparle même de hausse de taux désormais. Donc vous imaginez bien que le marché est en plein doute. Et puis du côté de Nvidia, c'est toujours la folie, avec un titre qui a perdu 6% en début de semaine, plus 6% hier. Et là désormais, il se stabilise. Tout ça a bien sûr un impact sur le Nasdaq, qui tente de se reprendre au bout de 20 minutes d'ouverture, plus 0,1% pour l'indice Nasdaq, quand le S&P et le Dow Jones sont en légère ses retraits.
Effectivement. Franklin, on voudrait vous interroger aussi sur Sanofi. Sanofi, et si Sanofi se passait de la bourse pour introduire son activité grand public? D'après Bloomberg, Sanofi a lancé un appel d'offres pour la cession de cette activité grand public. Est-ce que c'est peut-être une façon de préparer les investisseurs à un contournement de la bourse, dans la mesure où effectivement il y a de la stabilité politique à venir sans doute en France? Est-ce que voilà, c'est une introduction en bourse de moins pour le marché français? Est-ce que Sanofi, en lançant cet appel d'offres, ouais, essaie de contourner une possible introduction en bourse?
Oui, alors en plus on a, je pense que j'ai eu l'occasion de parler avec des gens chez Sanofi, c'est un peu cellule de crise tous les jours chez Sanofi, et c'est vrai qu'il y a eu une triste expérience avec EuroAPI. Alors on n'a pas forcément envie de recommencer, hein. On sait que la partie grand public, entre autres c'est le Doliprane, ce sont des médicaments costauds. On parle d'une opération de 20 milliards de dollars, donc c'est important. Et on voit que les fonds d'investissement, de capital investissement, sont très intéressés. On a Advent International, on a Payl Partner, et puis en embuscade, on a Blackstone et autres qui sont très intéressés par l'opération. Donc il peut y avoir, même si la société ne fait pas de commentaires dans l'immédiat, on pense qu'effectivement il y a des probabilités qui peuvent être prises très très au sérieux de contourner la bourse en faisant un placement directement auprès de sociétés de capital investissement.
Et donc Sanofi, d'après Bloomberg, a lancé cet appel d'offres pour la cession de son pôle d'activité grand public, une opération qui serait menée en parallèle de l'étude d'une potentielle introduction en bourse. C'est pas encore abandonné, effectivement, et Sanofi sur tout cela n'a pas communiqué encore. Merci beaucoup Franklin Pichard, Kipling Finance, régulièrement à nos côtés. Puis on vous interroge aussi sur nos réseaux sociaux, notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourse. Question du jour consacrée au secteur aéronautique après la chute d'hier et encore aujourd'hui d'ailleurs des valeurs du secteur. Est-ce que vous avez envie de racheter certaines valeurs, et en priorité Safran ou plutôt Thales, plutôt Airbus, ou encore racheter en priorité Dassault Aviation? Laquelle êtes-vous prêt à racheter en priorité donc dans cet univers aéronautique qui recule encore aujourd'hui? La question reste ouverte. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux et nous laisser vos arguments. Vos arguments, ils sont importants, vos arguments, en commentaire. On rebondira dessus d'ailleurs à partir de 16h30 avec la famille BFM Bourse.